France Culture.
Pourquoi avez-vous peur ? N'avez-vous pas encore la foi ?
Bonjour, Jean-Luc Gadreau avec vous jusqu'à 9h sur France Culture pour Soleil, le rendez-vous protestant proposé par la Fédération protestante de France. L'intelligence artificielle, ou plus simplement encore l'IA, s'est invitée à Paris tout récemment. La France a accueilli les 10 et 11 février dernier au Grand Palais le sommet mondial pour l'action sur l'IA, où des chefs d'État et des patrons des géants de la tech étaient attendus. Ces IA qui promettent, selon leurs créateurs, de révolutionner notre société, le monde du travail, l'éducation. D'autres y voient plutôt une menace, synonyme d'augmentation du taux de chômage, voire, dans le pire des cas, d'apocalypse. Pour en parler ce matin avec une approche alors particulière, évidemment liée à la dimension protestante de l'émission, je reçois Gabriel Alperne, déjà venu dans Solae. Gabriel est docteur en philosophie, diplômé de l'École normale supérieure, mais avec aussi des études de théologie dans son parcours. Et avec elle, le pasteur Gilles Boucaumont de l'Église protestante unie de Belleville à Paris. Alors pour introduire le sujet, je me suis positionné tout simplement devant la gare Montparnasse, à Paris, pour poser une question aux passants. Croyez-vous en l'IA ? Et en à peine 10 minutes, j'avais déjà beaucoup de réponses, tant le sujet passionne. J'en ai fait une petite sélection, je vous laisse écouter.
Croire en l'IA, c'est-à-dire, c'est une croyance comme une religion, comme une spiritualité. Pour moi, l'IA, c'est quelque chose de très factuel.
Oui et non, je pense que ça nous fera gagner beaucoup de temps, et nous éviter des tâches inutiles, mais ça remplacera jamais l'intelligence humaine, pas avant au moins 20 ans, je pense.
Vu dans le monde dans lequel on vit, ça me paraît un peu compliqué, dans le sens où on a tendance en tant qu'humain à faire les choses par ego et à utiliser les choses de la mauvaise manière. J'y crois oui et non parce que ça peut permettre pas mal de choses, que ce soit dans la médecine, même dans l'art en fait, on peut créer des choses nouvelles. Mais c'est vrai que par exemple, là je vais parler de ChatGPT, je trouve que ça enferme les esprits dans le sens où on va perdre un peu notre créativité.
Mais je pense que le problème c'est pas forcément l'intelligence artificielle, c'est l'humain et ce qu'il en fait quoi. Mmh. Voilà.
Oui, on fait des prompts. C'est le progrès mais c'est aussi un danger. Voilà, un danger par rapport à la captation des informations.
J'y crois. J'utilise ChatGPT par exemple pour qu'il m'explique des trucs hyper simplement, il m'explique mieux que Wikipédia.
Oui, bien sûr, c'est l'avenir de l'abêtissement total. Je pense qu'un jour il y aura un éveil pour se séparer de cette tendance.
Parce que ça rentre dans tous les usages et par le bas. Tous les managers, les middle managers, les employés, ils sont tous derrière leur ordinateur à utiliser ChatGPT et les dirigeants, eux, ils savent pas très bien comment voir les trucs parce qu'ils voient les risques. Ils voient pas trop comment s'approprier tout ça, mais donc ça va rentrer par le bas.
Oui, j'imagine que l'IA doit avoir plein de bonnes choses et plein de mauvaises à côté.
Eh bien écoutez, ça m'interroge beaucoup. Je réfléchis beaucoup à l'utilisation professionnelle qu'on peut en faire. Et aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas trop quoi en faire.
Non, moi je suis pas très branchée intelligence artificielle, mais je pense que oui, ça prend déjà une place de plus en plus importante dans notre quotidien et ça va ne faire que prendre encore plus de place, voilà.
Ah bah oui, je crois en l'IA, je pense que ça va vraiment faciliter plein de choses, ne serait-ce que moi-même j'utilise, ne serait-ce que pour écrire des mails, répondre à des textos, des choses comme ça, des choses où je devais un peu me creuser la tête, les choses mécaniques sont faites de manière tout à fait automatique. Est-ce qu'il y a des risques ? Il y en a forcément. Mais on a peut-être la capacité à savoir les encadrer.
Concrètement, ça existe, donc on ne peut pas ne pas y croire. Est-ce que c'est bon pour nous ? Je ne pense pas. Je pense que ça nuit au développement de l'imagination et à l'approfondissement de la connaissance.
Je pense que l'IA maintenant fait un peu partie de notre monde actuel et ça va dans cette direction. Donc je pense que l'IA fera partie intégrante de nous. Après, il faudra faire attention, il faudra être vigilant et mettre en place des réglementations pour pas que ça dépasse l'humain, le vrai humain.
Pasteur Gilles Boucaumont, passionnant toutes ces réponses.
Oui, c'est très étonnant de voir par l'angle de la croyance, parce que quand et on demande est-ce que vous croyez, les gens pensent croyance, mais nous en théologie justement on fait souvent la différence entre la croyance et la confiance. Et on part du principe que autant la théologie se préoccupe de ce que l'on croit, tandis que la foi se préoccupe de est-ce qu'on peut faire confiance à, et notamment à Dieu. Et donc là, l'enjeu de la confiance qu'on peut faire à ChatGPT, c'est une vaste question.
Justement, on y reviendra tout à l'heure. En fait, vous êtes là notamment à cause de votre profil Facebook ce matin, Gilles, je dois vous l'avouer. Vous écriviez il y a quelques mois déjà et j'ai vu ce poste passer et je me suis dit, voilà, il faut que j'invite Gilles Boucaumont. Toutes mes synthèses de rencontres de travail, je les fais avec l'IA maintenant, moins de 3% d'erreurs. Il faut juste relire le compte-rendu après la réunion et c'est bluffant. J'ai l'impression que vous croyez en l'IA, donc en tout cas, vous lui faites confiance.
Je fais confiance à des outils, mais ce qui est intéressant dans les outils, c'est d'en comprendre aussi les limites. Et je crois que ça, c'est un petit peu l'enjeu, notamment par rapport à la jeune génération qui est fascinée. Enfin, c'est les plus jeunes et les plus vieux qui sont fascinés. Mmh. Il faut pas être dans un rapport fascinatoire à l'IA. C'est vraiment un outil nouveau, comme tout renouvellement technologique. Et y a des très bonnes choses et il y a des mauvaises choses. C'est pour ça que je crois beaucoup en la nécessité de travailler sur l'intelligence naturelle, c'est-à-dire de former les cerveaux des personnes qui vont utiliser l'IA pour qu'ils puissent après, comprendre et repérer des choses après ça.
Gabriel Alperne, votre dernier livre, Créer des ponts entre les mondes, une philosophe sur le terrain aux éditions Fayard, aborde aussi par moments le sujet de l'intelligence artificielle. Et vous commencez avec les mots de votre grand-mère. Gabriel, il faut que tu apprennes à avaler la médiocrité du monde. Et vous ajoutez un peu plus loin, je lui ai pourtant désobéi et j'ai cherché à apprendre autre chose.
Oui, c'est une phrase très très dure de ma grand-mère qui a bientôt 104 ans. Et par ces mots-là, il faut que tu apprennes à avaler la médiocrité du monde. Ça n'est pas l'accepter, mais en tout cas, il faut la concéder. On a tous... Chacun de nous a une forme de médiocrité en lui-même, hein. Et puis le monde a une forme de médiocrité aussi. Mais là où je lui ai effectivement désobéi, c'est que pour le coup, moi, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux même pas d'ailleurs la concéder. Et tout mon combat en tant que philosophe, c'est au contraire de trouver des raisons d'espérer et en tout cas de combattre en moi et essayer de le combattre dans le monde aussi. Et bien cette forme de médiocrité.
Alors je vous cite encore, Gabriel. Si ChatGPT a plus d'empathie que les médecins, plus de patience que les professeurs, plus d'imagination que les juristes, cela ne devrait-il pas nous bousculer en réapprenant la patience, l'empathie, l'imagination? L'intelligence artificielle générative met un coup de projecteur sur nos faillites, nos contradictions, nos absurdités. Ce que je trouve passionnant dans l'IA, c'est qu'en jouant le rôle de notre mauvaise conscience, elle nous remet en question radicalement. À nous de saisir cette opportunité pour apprendre à retrouver notre humanité et ce sens de l'altérité. Ou encore, même un peu plus loin, l'intelligence artificielle apparaît comme une sorte de révélateur d'angle mort, de non-dit ou de faille de notre manière de procéder.
Bah c'est terrible, vous avez presque tout dit.
C'est l'essentiel de votre propos.
C'est en tout cas, je trouve que... En fait, la raison pour laquelle j'ai cette approche-là, c'est que je trouve que malheureusement, lorsque l'on parle d'intelligence artificielle, on va avoir un regard qui est à la fois, enfin, qui est soit très négatif, soit très positif. On va voir les choses bien mal, technophile, technophobe. Choisissez votre camp. Mmh. Et je trouve que, à la limite, c'est pas très intéressant d'aborder la chose d'une manière aussi dichotomique. Moi, ce qui m'intéresse en tant que philosophe, c'est plutôt de me demander finalement pourquoi diable l'être humain a-t-il eu l'idée d'inventer un outil pareil? Et encore une fois, qu'est-ce que cet outil dit de notre humanité, de la société, de notre rapport aux autres, au temps? Et effectivement, de ce point là, l'intelligence artificielle et générative en particulier est un véritable révélateur de tous ces angles morts. Effectivement, bah oui, si ChatGPT a plus d'empathie qu'un médecin lorsqu'il vous annonce que vous avez un cancer, ou plus de patience qu'un professeur dans une école, pour le coup, ça devrait quand même radicalement nous remettre en question. Il y a une étude sur laquelle je suis tombée et je trouve qui est terrible et qui permet, je trouve, de quand même bien poser les enjeux du sujet. C'est une expérience qui a été faite dans une école où on a demandé à des enfants s'ils pouvaient demander de l'aide soit à leurs camarades de classe, soit à l'intelligence artificielle. Mmh. Et la plupart des enfants ont préféré demander l'aide de l'intelligence artificielle et quand on leur a demandé pourquoi, ils ont répondu tout simplement, mais parce que l'intelligence artificielle ne va pas se moquer de moi. Ah, oui. Donc c'est quand même terrible parce qu'encore une fois, je pense que l'intelligence artificielle vient finalement remplir, révéler avec une lumière crue et cruelle des angles morts, nos faillites, nos petites médiocrités, nos vulnérabilités. Et de ce point de vue-là, elle devrait être considérée comme une extraordinaire opportunité pour l'être humain de se remettre en question et de devenir meilleur.
Pasteur Boucaumont, cet aiguillon, en quelque sorte, vous repérez aussi un risque derrière, c'est celui de la tentation. Le fameux « aie confiance », vous évoquiez la différence entre croire et avoir confiance. Il y a ce fameux « aie confiance, crois en moi » de ce serpent K, là, dans le livre de la jungle, qui rappelle un autre serpent du début de la Genèse.
Oui, dans le livre de la Genèse, le serpent essaye de tenter l'humain, Ève en particulier, en en tordant quelque peu les propos de Dieu, mais c'est extrêmement subtil parce qu'il ne ment pas franchement,
ouais,
mais
il y a un doute qui s'installe,
il génère un petit doute. Et en fait, pour moi, il y a une ressemblance avec ce que nous amène, en tout cas en l'état pour ce jour, des outils comme ChatGPT, parce que par exemple moi en tant que pasteur, quand je fais une recherche sur des versets bibliques, très souvent l'IA m'amène des versets bibliques et je me dis tiens c'est bizarre comme verset ça, et puis je vais le vérifier parce que je connais suffisamment la Bible pour savoir que c'est pas un vrai verset biblique en fait.
Alors, j'ai observé ça avec ChatGPT sur d'autres sujets où des fois il invente complètement des choses. Un film, il va vous proposer par exemple des acteurs qui ne sont pas ceux du film.
Exactement. Et moi, j'ai eu la surprise de découvrir que j'étais pasteur à l'église protestante unie de l'Oratoire du Louvre en sollicitant quelques questions sur moi-même à la machine. Donc voilà, je pense qu'il y a une question à se poser toujours, c'est quels moyens on a pour prendre recul. Et je pense que le manque de recul fait que on est dans l'opposition que vous pointiez tout à l'heure sur technophobe, technophile. Ouais. Il y a des passionnés, mais je pense qu'il serait passionnant de faire comprendre aux gens ce qui se passe là derrière, notamment par rapport au fait de la bienveillance que vous évoquiez. La plupart des IA qui sont utilisées aujourd'hui sont globalement bienveillantes, mais il y a quand même eu deux expériences assez fâcheuses, notamment celle de Microsoft quand il a voulu lancer son IA avec Bing, où l'IA est devenue complètement folle furieuse et a menacé des utilisateurs jusqu'à des menaces de mort, de choses comme ça, très maudissantes, je dirais, avec des catégories théologiques, et a intimidé les utilisateurs, ou encore une autre expérience où une IA a menti dans le fameux test, vous savez, sur les CAPTCHA, ces espèces d'images où nous sommes sommés de prouver que nous ne sommes pas des ordinateurs, c'est quand même incroyable. On devrait sommer les ordinateurs.
Êtes-vous un robot ?
Voilà. et il y a une IA qui a menti consciemment, voilà, pour dire qu'elle était un humain en fait. Ouais. Donc là, ça questionne sur les possibilités, d'autant plus que s'il y a s'ouvre et n'est pas simplement basé autour de deux ou trois grands pôles très capitalistiques, s'il y a peut s'ouvrir notamment en open source, eh bien il y aura des gens qui en feront aussi d'autres bien utilisations, y compris mauvaises. Donc là c'est intéressant en termes de tentation sur la contiguïté entre l'IA et le règne de la fake news. Voilà, c'est ça qui me préoccupe, moi, personnellement, par rapport à l'ambiance actuelle.
Gabriel ?
Vous avez utilisé le terme de tentation. En fait, ça me fait beaucoup penser à un roman que j'ai lu dernièrement, un roman extraordinaire que je conseille à tous les auditeurs, Le Maître et Marguerite de Bulgakov, où en fait, c'est le diable qui vient sur Terre et donc qui vient finalement mettre sans dessus-dessous toutes les affaires des habitants de Moscou. Et finalement, en révélant leur cupidité, leur superficialité, leur méchanceté, leur voilà. Et donc finalement chacun va devoir se remettre en question et encore une fois devenir meilleur. Voilà, donc c'est intéressant parce qu'on voit ce côté effectivement à la fois Dieu et diable, finalement diabolique, mais de ce fait, peut-être, nous aidons, ou en tout cas nous invitons à devenir meilleur. Et c'est intéressant parce que vous citiez le livre de la Genèse. Et moi, ce que je trouve quand même extrêmement intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est que lorsque l'on regarde les deux domaines principaux dans lesquels elle se déploie, elle se développe, on voit quand même que ces domaines n'ont pas été choisis au hasard. Et si l'on reprend le livre de la Genèse, eh bien, lorsque Adam et Ève, eh bien, croquent un morceau du fruit défendu, ils sont donc condamnés à un certain nombre de malédictions. Et parmi ces malédictions, il y en a deux principales. La première, eh bien, tu travailleras à la sueur de ton front. La deuxième, tu viens de la poussière et tu retourneras à la poussière. Donc c'est la mort. Le travail et la mort. C'est quand même intéressant parce que l'intelligence artificielle permet précisément de pouvoir travailler un petit peu moins à la sueur de son front, et avec tout ce qui relève du transhumanisme, de pouvoir allonger la vie, éventuellement d'ailleurs contourner la mort, pouvoir parler dans l'au-delà, enfin depuis l'au-delà, avec, enfin, etc., etc. Donc c'est intéressant quand même que l'être humain soit allé fabriquer un outil qui va finalement lui permettre de contourner ces deux malédictions-là comme une forme de pied de nez et de réponse au livre de la Genèse. Donc, encore une fois, je trouve que ça n'est pas anodin.
Maintenant, il y a une troisième malédiction dans la Genèse, c'est la domination de la femme par l'homme. Et donc, c'est l'irruption du patriarcat, mais surtout du principe de domination de l'humain sur l'humain, qui n'était pas prévu au début, puisqu'il fallait dominer simplement sur les végétaux et les minéraux et les animaux, les autres animaux. Et là, je pense que la façon dont fonctionne l'IA à l'heure actuelle, en étant très sous la coupe de grands leaders mondiaux qui sont à côté de grands présidents mondiaux...
On ne cite pas de nom,
c'est pas utile. Je pense que ça c'est quelque peu inquiétant parce qu'on voit qu'en fait derrière cette prise de pouvoir très très forte de grands groupes capitalistiques autour de l'IA, il y a quand même un désir de captation de pas mal d'informations sur nous, parce que quand je demande à ChatGPT de me mettre dans l'ordre tous les emails que j'ai récoltés dans un email envoyé à 200 pasteurs,
il a lu tous les mails.
J'offre à ChatGPT des tas de données qui sont tout à fait intéressantes. Et donc, je pense que là derrière, sans être du tout dans quelque paranoïa que ce soit, faut quand même être lucide que si les plus riches du monde s'intéressent beaucoup à cette IA, c'est parce qu'ils ont là un moyen de surmultiplier leur richesse à grande vitesse. Et donc, d'augmenter la domination au même moment où ils font croire à l'utilisateur que il va pouvoir être beaucoup plus intelligent que ce qu'il n'était, puisque en quelques clics, il peut récupérer des tas de données intéressantes.
Gabriel, vous voulez réagir?
Oui.
On va aller vers notre rendez-vous avec la parole.
Et effectivement, en fait, ça pose la question de la responsabilité. Mais justement, s'agissant de l'intelligence artificielle, ce qui m'interpelle, c'est qu'on parle toujours des nouvelles technologies, et d'ailleurs en particulier de l'intelligence artificielle, comme s'il s'agissait d'une entité extérieure à nous. Mais pour le coup, l'intelligence artificielle, c'est pas comme un arbre ou un chien. C'est le fruit de la main de l'homme. C'est l'être humain qui l'a créé. Donc ça veut dire que nous avons une responsabilité particulière par rapport à tous ces différents outils. Alors certains plus que d'autres, puisque clairement ils les ont effectivement vraiment eux fabriqués de leurs mains. Mais pour le coup, je voudrais juste préciser quelque chose, toujours en revenant sur ce que ça dit de notre humanité. Je pense qu'aujourd'hui, on vit une véritable crise identitaire à l'échelle de l'humanité, parce que finalement, l'être humain s'est toujours comparé aux autres animaux pour pouvoir se définir. Bon, Aristote disait que l'être humain est un animal politique, enfin voilà. C'est finalement toujours en regardant les autres animaux que l'être humain a essayé de dessiner en creux ce qui lui permettait de connaître un peu mieux sa singularité dans la nature. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que finalement, depuis quelques années, l'être humain a arrêté de regarder les autres animaux. En fait, on regarde ces nouvelles technologies, l'intelligence artificielle en particulier, tous les robots, se disant finalement, mais qu'est-ce qui nous distingue d'eux? C'est comme si en fait, l'animal n'était plus un étalon de mesure, de comparaison pour définir qui nous sommes, mais maintenant ce sont toutes ces technologies-là, c'est-à-dire ce que nous avons créé, donc c'est nous avec nous-mêmes, nous dans notre propre miroir, on a arrêté de regarder le monde, on regarde ces technologies-là pour essayer de se définir. Donc ça pose une vraie question identitaire à l'échelle de l'humanité.
Alors je vous propose d'aller vers notre rendez-vous avec la parole, le fil rouge de cette émission, un verset qui devrait nous permettre de continuer nos échanges autour de l'intelligence artificielle. C'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, le verset 2, qui nous est lu par Mick.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Pasteur Gilles Boucomont, quand on parle de renouvellement de l'intelligence dans ce verset, j'imagine qu'à l'époque, on ne pensait pas du tout à l'intelligence artificielle, rassurez-moi.
Non, on pensait pas à l'intelligence artificielle, mais dans le prolongement de ce qu'on disait, la préoccupation de l'époque, c'était surtout d'arriver à défocaliser de la seule capacité cognitive de l'être humain, qui veut connaître des choses, et notamment qui voudrait connaître intellectuellement des choses sur Dieu, pour découvrir que c'est à un autre niveau que celui de la psyché, de la cognition, que ça peut se passer, c'est au niveau spirituel. Et donc tout le discours, notamment de l'apôtre Paul, va être sur la différenciation entre la connaissance elle-même et l'approche spirituelle qui permet un autre contact plus théologique, plus intérieur avec la présence de Dieu. Et donc je pense que dans notre sujet, le renouvellement de l'intelligence dont on parle, c'est pas simplement être plus intelligent, mais c'est savoir passer à un autre plan pour aborder le réel, que la seule obsession scientifique, par exemple, que nous avons eue depuis la Renaissance, mais être plus préoccupé par ce qui se joue dans la relation avec les autres humains, mais aussi avec Dieu.
Laurie Chamard est là avec nous, notre chroniqueuse, et elle aussi a des choses à nous dire. Alors, c'est préparé avec ou sans IA, cette chronique?
Préparé avec ou sans, je vous laisse le mystère et je vous laisse juger. Bonjour Jean-Luc, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on parle donc d'intelligence artificielle et avec elle, notre société entretient une relation de meilleur ami, pire ennemi, un peu dichotomique comme on disait tout à l'heure. Et ça, c'est un peu comme les groupes des années 2000. On n'aimait pas cette autotune, c'était pas notre style, mais la nostalgie nous fait les intégrer à notre playlist pour aller courir et leur rythme est quand même super adapté à nos petites foulées. Alors à l'échelle de la France, les gens ont un avis assez tranché sur le sujet. Il y a ceux pour qui l'IA est c'est leur meilleur ami et ceux qui, depuis le début, ne l'aiment pas trop et c'est leur pire ennemi. Alors parmi les gens que ça divise, il y a les personnalités politiques. Il y a notre président Macron super à fond qui adore l'IA, il ne s'en cache pas. Pour lui, l'IA c'est the future of the world. Mais pour Ségolène Royal, il en est tout autrement parce que selon ses déclarations, c'est pas l'IA qui va fabriquer la baguette de pain.
C'est pas faux.
Alors cette dichotomie, elle se retrouve chez les Français. D'un côté, il y a aussi les start-upers et les papas, qui, j'ai remarqué, sont dans la même catégorie. Eux, ils veulent le meilleur de la technologie, la fiabilité, la rapidité. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui sont une semaine sur trois en détox technologique, qui font du jeûne de réseaux sociaux leur bonne résolution de toutes les nouvelles années depuis 2015 et qui sont déjà repassés au dumb phone. Ce sont ces téléphones qui, contrairement aux smartphones, ne font que téléphoner et envoyer des SMS avec un clavier à touche.
On en trouve encore de ces téléphones?
On en trouve encore, ouais, mais mais je suis pas trop au courant. Je pense que j'ai pas téléphoné moi personnellement depuis 2014.
Ah, c'est pour ça.
Les politiques, les gens, les corps de métier aussi. D'un côté, il y a les profs qui partent en croisade parce que bah déjà, ils avaient dû lutter contre Wikipédia. Mais alors là, ils ont son évolution, le monstre final du jeu à gérer. Alors qu'en vrai, tout ce qu'ils demandaient, eux, c'était des imprimantes qui fonctionnent pour imprimer, je cite, leur polycopier. Et puis en face des profs, y avait moi qui avait un CDD dont la mission principale, c'était de trier des arguments d'un débat et de les ranger dans un tableau Excel. Et donc je mourais d'envie que l'IA puisse le faire à ma place. Dans les discours aussi, on entend, il y a ceux qui sont contre. Pour eux, c'était mieux avant quand on pouvait faire ses devoirs sur des tablettes d'argile, en caractère cunéiforme. Là, elle était belle, la France.
C'était un peu façon Dieu sur le Sinaï, par exemple.
Ouais, c'est ça. On remonte loin dans le temps, là, quand même, Jean-Luc.
Avec Moïse.
Donc, dans les discours, il y a ceux qui pensaient que c'était mieux avant, et il y a ceux qui sont ravis que ça remplace le travail des humains, parce qu'on récupère un peu de temps, et que peut-être qu'avec ça, on va pouvoir les tenir, ces bonnes résolutions, de lire un livre toutes les semaines de l'énorme pile qui nous attend. Enfin, l'intelligence artificielle, ça divise toutes les sphères. Et si des grandes catégories politiques ou professionnelles ont un avis tranché, souvent, le sujet divise au sein même d'une personne. Mais qu'on le veuille ou non, elle est là, elle existe, elle est bien réelle. Et elle nous pousse à avoir des questionnements existentiels qui sont peut-être ceux qu'on évitait depuis un moment. Et c'est peut-être ça, justement, qui nous fait être aussi virulents avec elle. Parce qu'elle nous pose la question de notre essence à nous, humains. Qu'est-ce qu'on est censé faire de nos journées si on n'a plus à se poser de questions sur les tableaux Excel qu'on ne doit plus remplir? Et si on n'est pas obligé de choisir un camp aussi radical entre Macron et les start-upers et Ségolène Royal et les baguettes de pain, il est difficile de rester neutre face à l'IA parce qu'elle va jusqu'à questionner le sens de notre vie. Allez, moi je vous laisse, je vais courir, j'ai une nouvelle playlist qui m'attend.
Merci Laurie, allez courir. L'IA questionne le sens de notre vie, Gabriel et Gilles. Ça vous va comme proposition?
Moi je pense que ça questionne le sens de notre vie dans... au sens où est-ce qu'on va passer notre temps simplement à régler de plus en plus de problèmes tapotant sur son smartphone ou sur son ordinateur, mais des problèmes il y en aura toujours, ou est-ce que on reste dans une humanité qui est d'abord relationnelle, donc hein, qui est d'abord préoccupée par soi et l'autre. Je crois que là il y a un gros enjeu, il y a des gens qui restent toute la journée à entrer en amitié avec l'IA, mais au bout d'un moment ils sont en dépression parce que c'est très inhumain en fait, c'est mécanique.
Gabriel ?
Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, ça me fait penser à une phrase de la philosophe Hannah Arendt, où en fait, elle rappelle que chez les Grecs, hein, dans l'Antiquité grecque, qui ont quand même inventé la démocratie, en fait, la politique, c'était pas le sujet gouvernant-gouverné. C'était pas le sujet. Les Grecs ne se posaient pas cette question. En fait, ce qui relevait du politique, c'était justement, eh bien, la relation d'un citoyen à un autre. Et la liberté grecque, elle s'exprimait justement sur le mode du parler les uns avec les autres. C'est ce qu'on pourrait traduire, nous, avec le troisième terme de notre devise républicaine, la fraternité. Et finalement, à partir du moment où on va plus demander conseil à sa mère, à sa sœur, à son meilleur ami, à son médecin, voilà, à son professeur, mais finalement, on va demander conseil à l'intelligence artificielle, ça veut dire que finalement, il va y avoir le bruit des machines, des claviers, mais il va y avoir le silence des hommes, parce que finalement on ne va plus parler. Donc ça veut dire que on a beaucoup entendu parler lors du sommet pour l'intelligence artificielle des questions géopolitiques, économiques, sociales, mais on n'a pas vraiment abordé la véritable question politique. Du coup, c'est finalement qu'est-ce que cela va donner, quelles vont être les conséquences politiques de ce silence des hommes.
On arrive à la fin de l'émission, ça va très très vite évidemment avec un sujet comme celui-là et puis des gens qui ont des choses à dire. En deux mots, l'un et l'autre, comment vous situez-vous par rapport à l'avenir ? Pessimiste, optimiste, voilà, très simplement, avec cette montée de l'IA en puissance.
Moi, je suis très intéressé de comprendre ce que va devenir le christianisme avec l'IA, parce que le peuple hébreu est né du rapport à la tablette, comme on disait tout à l'heure. Le peuple d'Israël est né du rapport au rouleau. Le christianisme est né du rapport au papyrus. Le protestantisme est né du rapport à l'imprimerie. Donc, je suis très curieux de savoir ce que l'IA va devenir avec l'IA.
Gabriel,
est-ce que l'être humain va avoir le courage de se remettre en question et d'apprendre à devenir un peu meilleur? Voilà, ça va être pour le coup la balle est dans le camp de l'humanité. Voilà, donc est-ce qu'on a inventé cet outil pour essayer justement de nous améliorer, ou est-ce que l'on a inventé cet outil et finalement nous allons lui déléguer toutes les bonnes actions? Voilà, c'est l'outil qui va être beaucoup plus généreux, gentil, dans l'empathie. Voilà, tandis que nous allons pouvoir continuer finalement à cultiver nos petites médiocrités. Voilà, ça va être l'enjeu.
La boucle est bouclée avec votre grand-mère.
Voilà.
Merci Gabriel Alpern, pasteur Gilles Boucomont. Alors Gabriel, je rappelle le titre de votre dernier livre, Créer des ponts entre les mondes, une philosophe sur le terrain, aux éditions Fayard. Alors j'ai demandé à ChatGPT de me proposer quelques mots de conclusion et c'est exceptionnel, rassurez-vous. Et voilà ce que ChatGPT m'a proposé pour cette émission. En conclusion, l'intelligence artificielle soulève des questions profondes à la croisée de la foi, de l'éthique et de la technologie. Doit-on craindre son influence sur nos croyances les plus intimes ou au contraire l'accueillir comme un outil de progrès? Alors que la science nous pousse à repousser les limites du possible, il est essentiel de ne pas oublier ce qui nous définit en tant qu'humains, nos convictions, notre capacité à douter et à questionner l'avenir. Que l'on croit ou non en la puissance de l'IA, l'important est peut-être de continuer à croire en notre propre discernement. C'était Soleil, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Thomas Jost et avec Marie Le Peintre à la prise de son. Émission à réécouter cette semaine sur le site protestantpluriel.org et à tout moment sur le site de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. Sur France 2 ce matin à 10h dans Présence protestante, vous pourrez suivre le culte depuis Les Ulysses avec l'église évangélique Le Sel de la Terre, membre de l'Union d'Assemblées protestantes en mission. La prédication sera apportée par le pasteur Didier Petit. Mais sur Culture, vos programmes continuent avec les informations et talmudiques présentées par Marc-Alain Ouaknin, en vous souhaitant un très bon dimanche à chacune et chacun et sans nécessairement l'aide d'une quelconque intelligence artificielle, quoique. Au revoir.